Bonsoir, bienvenidos, bienvenidas sur Semillas Latinas, l'émission qui vous fait voyager au cœur de l'Amérique latine pour explorer ses cultures, ses luttes et ses réalités contemporaines.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Moi, c'est Astrée et aujourd'hui, je vous emmène mettre le cap sur la Colombie. Vous pensez peut-être à Pablo Escobar, à Shakira ou encore au récit de vos potes sur les fêtes effervescentes de Cartagène et Medellín. Mais la Colombie, c'est bien plus que ces clichés. Et derrière cette image festive se cache un pays profondément marqué par son histoire, ses contradictions et ses aspirations à la paix. Ce mois-ci, nous avons choisi de parler de la Colombie à travers le prisme de la construction de la paix. Pourquoi ? Parce que cette quête de paix, amorcée par les accords historiques de 2016, reste un défi immense à la croisée des enjeux politiques, environnementaux et sociaux. Alors un petit retour sur l'histoire s'impose pour mieux comprendre le sujet. La guerre civile colombienne est l'une des plus longues de l'histoire contemporaine, s'étendant sur plus de 55 ans, avec des racines profondes dans les inégalités sociales et politiques du pays. Le conflit trouve ses prémices dans les années 1960, après une période appelée la violencia, qui marque la formation de deux groupes de guérillas marxistes, les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et l'armée de libération nationale, l'ELN. À cette époque, le pays se caractérise par une absence de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi par l'échec des réformes agraires qui laissent des millions de paysans dans la précarité, et enfin par l'ingérence des États-Unis, une fois n'est pas coutume en Amérique latine. Alors ce conflit, il oppose une myriade d'acteurs dont nous allons ne citer que les plus éminents pour simplifier la situation. Il y a les forces gouvernementales colombiennes, les groupes révolutionnaires, aussi appelés les guerrilleros, des narcotrafiquants et des groupes armés paramilitaires, souvent soutenus indirectement par l'État et des intérêts privés. Le temps passant, le conflit s'enlise dans un cercle de violence avec un recours perpétuel à des activités illégales. Narcotrafic, prise d'otages, extorsion. Et malgré les tentatives successives de transition vers la paix, les groupes n'ont commencé à se démobiliser qu'à partir des années 2000, et ce, jusqu'à la signature des accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC en 2016. Cependant, d'autres acteurs armés comme l'ELN, l'armée de libération nationale et des bandes criminelles continuent leurs activités. Et une partie des FARC, les dissidences, a d'ailleurs repris les armes. En fait, l'accord il ne signe pas la fin des hostilités puisque jusqu'en 2020, une personne était portée disparue tous les 3 jours en Colombie. Le coût humain de ce conflit est colossal, avec plus de 450 000 victimes entre 1985 et 2018, selon la Commission de la vérité colombienne. Mais aussi des millions de déplacés internes, des disparitions forcées et des massacres qui ont profondément marqué la société colombienne. On retient notamment le scandale des faux positifs, falsos positivos, un scandale majeur qui jusqu'en 2014 avait des civils qui ont été exécutés par l'armée et présentés comme des guérilleros morts au combat pour gonfler leurs résultats militaires. Aujourd'hui, malgré les embûches, la Colombie est un pays en mouvement où la société civile, les femmes, les populations indigènes et les artistes jouent un rôle crucial. Ils résistent, créent et ouvrent de nouveaux chemins vers la justice et la réconciliation. Dans cette émission spéciale, nous mettons en lumière ses luttes, ses initiatives et ses espoirs pour comprendre un peu mieux la Colombie dans toute sa richesse et ses défis. Paloma Pretrich et Manon Mesia ouvriront cette émission avec une chronique dédiée à la COP 16 de la biodiversité qui s'est tenue à Cali cette année. Et nous aurons ensuite le plaisir d'écouter un échange captivant entre Sylvie Argibé et deux représentantes de l'association Ciudadanías por la Paz pour explorer les politiques de la paix en Colombie. À la suite de cette discussion, je rejoindrai Sylvie pour vous emmener à Bogota à la découverte de la Casa de la Paz, une initiative inspirante et concrète de réconciliation. Ensuite, le 7e art sera à l'honneur grâce à Pauline Rossano qui nous plongera dans le néo-réalisme colombien, tandis qu'Anaël Michel conclura cette émission en revisitant la légende de l'Eldorado. C'est donc un programme riche en découvertes et en questionnements qui vous attend. Bonne écoute. C'est à vous Paloma et Manon, vous allez nous parler de la paix avec la nature.
Oui, merci Astrée. Donc avec Manon, on a décidé de vous parler d'un événement majeur qui s'est passé en Colombie le mois dernier, la COP 16 pour la biodiversité. Elle s'est donc déroulée du 21 octobre au 1er novembre à Cali et on a tenté de décrypter pour vous les enjeux, mais surtout les grandes figures de cet événement, afin de comprendre les spécificités de la Colombie concernant la protection de l'environnement.
Pour commencer, il faut comprendre que la Colombie est un pays déterminant pour la protection de la biodiversité, puisqu'elle abrite aujourd'hui 10% de la faune et de la flore mondiale. Mais elle est également connue pour un autre record dans ce domaine, celui du pays le plus meurtrier. envers ses activistes pour l'environnement, avec près de 361 défenseurs de l'environnement assassinés ces 6 dernières années. La première chose que l'on voulait donc mettre en avant aujourd'hui, c'est que si l'enjeu de la biodiversité n'évoque pas forcément des questions de paix, il est pourtant complètement lié aux enjeux de paix et de conflits armés en Colombie. Un lien mis en avant d'ailleurs par le slogan de cette COP, « La paz con la naturaleza ».
Si les activistes sont aussi ciblés aujourd'hui, c'est parce qu'on a plusieurs acteurs puissants qui luttent pour l'appropriation des terres et des ressources, que ce soit des entreprises légales ou des groupes armés. Et par exemple, les groupes armés évoqués par Astrée dans la présentation de l'émission sont impliqués dans l'exploitation minière illégale ou encore dans la déforestation, et les activistes qui vont s'y opposer en deviennent des cibles directes. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ces conflits de terres se déroulent souvent dans des zones qui sont rurales, des zones où l'État est absent et où la corruption locale ne permet pas l'application des lois pour l'environnement. Donc les activistes se retrouvent alors isolés face à des acteurs qui sont puissants et qui font souvent usage de la violence, qu'elle soit économique ou physique.
Plus encore, ils font souvent l'objet de campagnes de diffamation et d'une discréditation médiatique qui les dépeint comme des terroristes, qui les accuse de travailler pour des puissances étrangères et d'être antipatriotiques, ou encore ils subissent des procédures judiciaires abusives qui visent à les stigmatiser et à détourner l'attention de leur action environnementale. Un phénomène exacerbé en Colombie, mais qui se retrouve un peu partout dans le monde, notamment en France. Merci CNews.
Ce danger, c'est donc le quotidien des défenseurs de l'environnement qui sont présents à cette COP16 et que l'on voulait vous présenter. Parmi les activistes, il y a surtout deux figures majeures qui nous ont marquées et qui font actuellement partie du gouvernement en place de Gustavo Petro. C'est celle de Francia Márquez et de Susana Mohamed. Francia Márquez, c'est la vice-présidente de la Colombie. Elle est née dans la région du Cauca, dans une communauté afro-colombienne, et elle lutte depuis ses 13 ans pour les droits des populations marginalisées. Elle s'est fait connaître pour la lutte contre l'exploitation minière dans sa région natale, et donc avant d'être vice-présidente, c'est surtout une activiste engagée pour la protection des droits afro-colombiens et pour l'environnement.
Et la deuxième grande figure de cette COP, c'est Susana Mohamed, qui est quant à elle ministre de l'Environnement et qui a présidé la COP. Elle a un profil davantage axé sur la gestion technique des enjeux environnementaux. Et lorsqu'elle était secrétaire à l'environnement à la mairie de Bogota, elle a promu des mesures très fortes pour la protection de la biodiversité et la transition énergétique. Mais elle a pourtant également fait l'objet de campagnes de diffamation accusées d'être trop radicales.
Et au-delà de ces deux personnalités, on voulait vous parler d'un grand absent de cette COP16, c'est Francisco Vera, qui est souvent appelé le Greta Thunberg d'Amérique latine, un activiste âgé de 15 ans et dont la réputation nationale est croissante. Mais justement, il a refusé de venir en raison de l'absence de sécurité face aux menaces qu'il recevait. Et c'était pour lui une forme de protestation contre le manque de soutien de l'État pour les défenseurs de l'environnement. Il souligne donc une fois de plus que la paix avec la nature ne pourra pas se faire si la vie de ses défenseurs n'est pas protégée.
Enfin, la dernière figure majeure de cette COP16, c'est celle des peuples autochtones. La COP16 a en effet mis en lumière leur rôle prépondérant. Du coup, ce statut et ce rôle s'est vu renforcé avec la création d'un groupe permanent destiné à assurer leur représentation auprès de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Évidemment, on risque que ça reste seulement théorique. Néanmoins, on est sur une avancée phare depuis quelques années pour la gouvernance de la biodiversité qui a été redonnée aux populations les plus concernées. Et parallèlement, 115 communautés se sont vues octroyer une autorité environnementale sur leurs terres par le gouvernement Gustavo Petro en octobre 2024. Tandis que le 26 octobre, des peuples du Brésil, de Colombie, de Pérou, de Bolivie, d'Équateur, du Venezuela et de Guyane lançaient en parallèle à Cali le G9 de l'Amazonie autochtone.
Une des raisons de cette autorité, c'est que le savoir autochtone est de plus en plus reconnu. Ils se désignent eux-mêmes comme des gardiens de la nature, et grâce à leurs savoirs ancestraux et la relation de symbiose qu'ils entretiennent avec leur environnement, ce sont les plus à même d'en prendre soin, plus que des acteurs politiques ou des acteurs de l'écotourisme. Et en effet, dégrader la biodiversité et leur territoire, c'est dégrader aussi leur capacité à s'alimenter, à se soigner, à se protéger. Cette autorité environnementale, elle va aussi de pair avec une nature qui est de plus en plus un sujet de droit. D'ailleurs, les premiers pays qui ont reconnu des droits à la nature dans leur constitution, c'était des États plurinationaux qui avaient une forte composante autochtone, comme l'Équateur ou la Bolivie. Et en Colombie, la Cour suprême s'est prononcée en mai 2018 avec éclat et elle a reconnu la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne pour lutter contre la déforestation.
Reconnaître la nature comme un sujet de droit dans son ensemble est une idée de plus en plus portée par de nombreux mouvements, comme le mouvement Earth Law, né suite à la Charte mondiale de la nature en 1982. Et oui, ça date et on en est toujours là. Pour conclure sur cette COP, on peut en retenir qu'avec 23 000 inscrits, elle représente une mobilisation populaire massive, avec une place forte redonnée aux peuples autochtones. Et la chanson que vous entendez derrière est d'ailleurs celle jouée par les organisations et communautés à Cali, devant les lieux de négociation, mais aussi dedans ces lieux. Si comme toutes les COP, on bloque sur le budget alloué à la transition, on voit quand même des avancées. L'écologie imprègne aujourd'hui toutes les strates de la population en Colombie et est reliée de façon explicite aux enjeux de justice sociale, de justice environnementale et de construction de la paix. Le début d'une victoire idéologique, nous l'espérons, pour les défenseurs de l'environnement.
Merci à vous deux. Et maintenant, une pépite de la salsa, c'est Cagliari du Grupo Niche. Fiesta y Rumba, c'était Cagliari du Grupo Niche. Vous êtes bien avec Semillas Latinas sur Radio Campus Paris. Et je laisse désormais l'antenne à Sylvie pour une interview sur les politiques de paix.
Merci beaucoup Astrée. Et ce soir, nous recevons deux invités, Andrea Mora et Paula Martinez. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous au micro de Semillas Latinas. Vous êtes donc toutes les deux membres de l'association Citoyenneté pour la paix de la Colombie. Et l'association travaille à promouvoir la construction d'une Colombie juste et démocratique sous le concept de paix positive et complète. Vous soutenez par ailleurs la mise en œuvre de l'accord de paix de 2016 et vous militez pour l'ouverture de négociations avec les autres acteurs armés du conflit. Et est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quelles sont les actions menées par l'association pour promouvoir la construction de la paix en Colombie en France ?
Merci beaucoup, merci Sylvie. Mais d'abord, je tiens à remercier chacun, chacune des personnes qui fait cette émission, car avec Andrea, nous sommes vachement surprises du niveau d'information et de renseignement, en fait, ce sérieux avec lequel vous êtes en train de développer cette émission. Et nous sommes très touchés, en fait, par ce sérieux. Justement, parce que parler de la Colombie, c'est pas facile. Il y a peu d'espaces qui le font. Donc, petit aparté, mais vraiment, merci beaucoup. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Sylvie, l'association est née en 2014. Donc, on a 10 ans. On vient d'avoir 10 ans, là, ce mois-ci. Les actions qu'on développe sont multiples. Et en fait, c'est parce qu'on croit justement que, aussi en tant que migrante ou colombien, colombienne vivant en dehors du pays, nous pouvons aussi avoir une action pour transformer la réalité du pays directement dans le territoire. Ça peut paraître un peu bizarre, on dit bon oui, mais vous n'êtes pas dans le territoire, mais en fait, on a un avantage, c'est que nous sommes en sécurité. C'est-à-dire que nous pouvons nous permettre, tout en étant en dehors du pays, ce n'est pas parce qu'on est en dehors que nous ne sommes pas concernés, en fait. Nous avons nos familles et puis nous avons toujours le droit de vote aussi. Il ne se perd pas en traversant la frontière. Donc le fait d'être en sécurité nous permet de faire, par exemple, des actions de plaidoyer ou d'avoir une action de visibilité de rendre visibles en fait les luttes qui se sont menées dans le territoire en Colombie et de pouvoir avoir un écho et un soutien international pour que les vies aussi dans les territoires puissent être protégées. Donc tout ce qui va être des plaidoyers pour la défense des droits humains, des plaidoyers pour avoir un soutien pour les accords de paix. Mais l'association travaille aussi, non pas uniquement pour des accords de paix qui impliquent le cessez-le-feu, bien sûr c'est fondamental, mais des accords de paix qui, comme ils ont été d'ailleurs conçus, qui puissent cheminer vers une transformation profonde de la société colombienne qui amène de la justice sociale et environnementale. Donc ces actions, donc plaidoyer, mais nous avons aussi des actions de type plus académique, avec un projet qui s'appelle Colombia Tema, où nous allons dans des espaces plutôt universitaires pour discuter des conférences, des séminaires, des cours sur la Colombie, mais pour aller au-delà, comme vous l'avez super bien expliqué aussi en introduction, c'est pas ces petites images stéréotypées, sinon essayer de comprendre d'où vient aussi ce conflit, mais comment le peuple se organise pour résister et comment il fait des propositions pour avancer. Donc c'est un travail plus académique et on a différents étudiants, chercheurs, chercheuses qui peuvent le proposer. Donc plaidoyer, partie académique, on a aussi une plateforme d'information Passport, P-A-Z, pour, un jeu de mots entre PASS, P et le passeport, qui cherche à informer sur justement la Colombie, mais à travers des articles d'analyse et qui puissent être accessibles en langue française pour que les personnes qui sont intéressées à la Colombie puissent avoir accès à ces informations, parce qu'une des principales disputes aussi, c'est l'accès à l'information. Qu'est-ce qui sort du pays, par exemple?
Et où est-ce qu'on peut trouver justement cette revue dont vous parlez qui s'appelle Passport? Est-ce qu'elle est accessible uniquement en français, peut-être aussi en espagnol?
Ça a dû être un petit peu mis en pause et elle reprend petit à petit sous une forme un petit peu plus modeste, mais qu'on essaye de renforcer. Et puis c'est sur internet en fait, passport.press. Il y a des articles qui commencent à nouveau à être postés. Une autre action peut-être pour finir aussi, parce qu'on a plusieurs, mais il y en a une qui prend beaucoup de place aussi, c'est l'action à travers les arts. Art et artivisme. Donc cette partie, donc on utilise l'art sur deux grands objectifs. Une voie artiviste, qui va être une branche un tout petit peu plus militante et politique. L'association est une association politique, mais non électoraliste, non partidiste. Donc politique entendue comme quelque chose de très large, cette capacité qui a les citoyens, qui ont les citoyens et citoyennes d'être acteurs et actrices de transformation sociale. Donc on l'utilise, l'art, pour, dans l'artivisme, sensibiliser, rendre visible des situations de la Colombie et amener une certaine conscience politique. Et l'art, en tant que tel, pour sortir de ces stéréotypes, de certains types de personnages qui nous collent un petit peu à la peau à travers ce que certaines plateformes communiquent sur des séries qui font l'apologie ou le truc comme ça, magnifique, un grand criminel qui a eu la Colombie et qui a fait beaucoup de mal et qu'on essaye de commencer à détruire tout ça pour passer vers une culture de paix. Donc les arts, tout ce talent qui existe ici en France, de musiciens, musiciennes, peintres, dessinateurs, danseurs, voilà, il y a plein de talents qui travaillent dans la culture de paix. Et justement, avoir des espaces aussi, là tout à l'heure, vous rigoliez un petit peu, mais c'est super important de pouvoir avoir des espaces pour rire, même quand on est un peu stressé, c'est fondamental, parce que c'est ce qui nous permet de créer des liens aussi. Et avec la migration, il y a une rupture de liens et du tissu social, et par les arts, on retrouve un petit peu cette communauté colombienne qui commence à nouveau à dialoguer, ça participe et contribue à la culture de paix.
Et donc vous mentionnez aussi qu'un accord de paix, ce n'est pas uniquement un cessez-le-feu ou la démobilisation des acteurs armés, mais c'est aussi une conception plus large de la paix, notamment la paix positive et complète que vous promouvez, que l'actuel gouvernement de Gustavo Petro et de Francia Márquez est en train de promouvoir aussi, notamment avec la paix avec la nature qui a été évoquée. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par paix positive et complète pour les auditeuristes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément si familiers de ça?
C'est parce que c'est un concept qu'on n'utilise pas que dans l'association, c'est quelque chose qui vient beaucoup de l'Amérique latine. Une paix positive, c'est une paix qui a une dignité aussi pour la vie. Donc bien sûr, c'est l'arrêt des armes, mais c'est une justice sociale et une possibilité pour tout simplement le peuple de vivre dignement, en fait. Donc c'est s'occuper aussi des causes structurelles qui ont fait émerger le conflit armé. Et Andrea va nous permettre de faire ce lien avec l'autre mot pour le gouvernement qui est plutôt la passe totale.
Oui, donc la passe totale, c'est un accord initialement politique, national, qui a été, on va dire, promis en campagne par Gustavo Petro et Francia Márquez. Donc l'objectif est celui de construire un contexte positif pour arrêter les différents conflits actuels et donner une finalisation aux conflits internes. Et il est matérialisé donc par la loi 2272 de 2022 et aussi par le plan national de développement, que c'est la loi de 2023 pour la mise en œuvre de cette politique de paix. Donc la loi de la paix totale, celle de 2022, cherche à positionner la paix comme une politique d'État, comme une politique d'ordre public qui priorise la négociation des groupes armés au-dessus de l'utilisation de la violence afin de pacifier les territoires. Donc il s'agit de construire une politique publique qui soit transversale à toutes les affaires de l'État, avec un dessein institutionnel, une capacité juridique, technique et de gestion afin de que la paix devienne un bien public prioritaire, un objectif de la nation. Donc c'est un arrangement institutionnel du cadre juridique aussi pour protéger cette paix et la justice et la négociation donc des accords et l'implémentation aussi qui fait partie de cette politique de la paix totale. Donc ça cherche aussi à attaquer les causes des conflits, que c'est donc l'inégalité, l'injustice sociale et donc plutôt à donner des garanties pour les droits à la paix, le respect des droits humains et la justice sociale et environnementale, récupération du contrôle territorial aussi des zones géographiques.
Et donc, à l'heure actuelle, on assiste aussi à une reconfiguration du conflit armé, comme vous venez de l'évoquer, avec notamment des dissidences des FARC qui ont repris des armes, en 2018 avec la Segunda Marquetalia, l'Estado Mayor Central qui a refusé de se soumettre à l'accord de paix aussi de 2016. Où est-ce qu'on en est actuellement en termes de négociations avec les conflits armés? Avec quels conflits armés on souhaite négocier aussi? Est-ce que c'est uniquement les forces guerrilleras ou les paramilitaires aussi qui sont présents dans tout l'ensemble du territoire colombien? Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus, Paula Martinez ou Andrea Mora?
Oui, donc de ce côté, donc on a la loi de paix de la passe totale qui a ouvert et a facilité aussi les contextes pour la négociation avec des groupes armés qui ont été, on va dire, classifiés dans deux groupes. Donc les groupes armés à caractère politique, on va dire, et de l'autre côté, donc les groupes qu'on appelle criminels. Donc ça a permis déjà au gouvernement d'établir 9 processus de paix pendant ces 12 années d'implémentation de cette loi, 4 négociations avec 4 groupes armés à caractère politique. Donc on a les LN.
L'Armée de Libération Nationale, oui, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Exactement. Donc un groupe dissident du même groupe guerrillero, il s'appelle les Frente Comuneros del Sur. Le troisième, c'est la Segunda Marquetalia et aussi l'Estado Mayor Central de las FARC. Donc ça, c'est donc ce premier volet ou côté groupe politique. Et le deuxième, donc il y a 5 discussions avec des groupes criminels. Donc on appelle ça aussi la paix urbaine. Donc ce sont des groupes criminels qui ont des incidences plutôt dans les zones urbaines de certains territoires. Donc on a les dialogues avec les groupes criminels du Valle d'Aburrá. Donc
qui se situe,
c'est vers Cali et la partie donc du département de Valle del Cauca. Donc il y a aussi avec les groupes criminels du Quibdó, qui c'est dans le département du Chocó, dans le Pacifique. Et il y a aussi avec les groupes criminels de Buenaventura. Et on a encore deux aussi qui sont très importants. Donc, c'est avec les clans del Golfo et un autre avec les autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que c'est au nord.
Du coup, ces deux groupes armés qui sont des forces paramilitaires qui sont, font présence dans tout le territoire et qui mobilisent le narcotrafic aussi pour s'enrichir. Merci beaucoup pour ces échanges et on va se retrouver après une petite pause musicale.
Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias.
Écoutez La Sentada par l'artiste engagé La Muchacha. Nous continuons notre émission sur la Colombie et la construction de la paix avec la deuxième partie d'interview. À toi Sylvie.
Merci Astrée. Donc nous parlions des processus de négociation actuels de la paix avec notamment les groupes à caractère politique comme les dissidences des FARC et l'ELN, les groupes d'organisations criminelles comme les forces paramilitaires. Est-ce que Paula Martinez ou Andrea Moria, selon vous, est-ce que à l'heure actuelle l'accord de paix de 2016 qui a été signé entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et l'ex-guérilla des FARC est mis en œuvre dans l'ensemble du territoire ou est-ce qu'il subsiste des défaillances?
Sacrée question, Sylvie. Tu mets les choses un peu difficiles. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière parce que là, on a mélangé un petit peu les choses tout à l'heure pour les dialogues de paix urbaine. Bahia Yaburra, c'est aussi pour la partie de Antioquia. Donc, Medellín et tout ça. Donc, il y a Buenaventura, Quibdó et Bahia Yaburra pour Antioquia. Je voulais aussi revenir sur quelque chose. On parle aussi des dissidences, des FARC. C'est important peut-être pour ceux qui vont écouter et qui nous écoutent actuellement de bien savoir que tout processus de paix a un pourcentage de dissidence, en fait. Et encore plus dans cette situation-là où les accords de paix, c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec ta question actuelle, n'ont pas été mis en place. C'est-à-dire, nous avons signé, l'État colombien a signé les accords de paix en 2016, mais ils n'ont pas été mis en place immédiatement. Parce qu'il y avait tout un processus. En 2018, Iván Duque, c'est donc l'ancien président de la Colombie, qui était un opposant total à la paix et aux accords. Et son gouvernement a décidé de faire miettes les accords de paix. Même si nous fêtons les 8 ans de la signature, nous avons perdu 4 ans dans la mise en place. Et ça a créé un grand problème vis-à-vis des signataires de paix, ce qui fait que déjà l'implémentation a pris beaucoup de retard. Et ce n'est pas uniquement comme si on était en train de prendre du retard dans une production, dans une usine ou quelque chose. C'est des personnes qui ont rendu les armes. et n'ont pas été, comment dire, derrotadas. Ils n'ont pas été vaincus, sinon qu'ils ont été, ils ont décidé d'aller sur une table de négociation pour rendre les armes. Et il n'y a rien qui a été mis en place pour commencer à leur proposer justement cette transition vers la vie civile. Ce qui fait que cette situation a fait qu'aussi une partie des signataires sont retournés à ces différents groupes dissidents, mais c'est un pourcentage vraiment minime. La quantité de signataires qui restent fermes et vraiment en pied, engagés pour la paix, est énorme. Tellement énorme que ça a coûté la vie à plus de 420 signataires de paix. Et Alexa Rocci, que tu as pu voir un peu son exposition.
Alexa Rocci, du coup, l'actuelle photographe de la présidence colombienne et qui est aussi une signataire de la paix.
Exactement. Donc, elle n'est plus en présidence, mais elle continue à être dans différents espaces. Mais c'est vrai qu'elle a été la première photographe signataire de la paix à être accréditée par la présidence de la République en Colombie et qui a suivi de très près le président Gustavo Petro et Francia Márquez. Donc ça, c'était quelque chose de très fort aussi à niveau du message pour contribuer aussi à une déstigmatisation aussi des signataires de paix. Comme il existe des victimes du conflit armé colombien, il existe aujourd'hui des victimes de la paix. Et donc, par rapport à ta question, non, malheureusement, les accords ne sont pas mis encore en place. Il n'est que à partir d'en fait ce gouvernement allié de Gustavo Petro, Francia Márquez, qui ont commencé à être mis en place, mais malheureusement, il y a du retard. Donc, ils essayent de prendre un petit peu les choses en main, et ça passe par une réforme rurale, par exemple, et des solutions, mais qui ne vont pas suffisamment vite et qui ne peuvent pas aller si vite que ça, parce que il y a eu 4 ans qui n'a rien qui a pu se passer. C'est la première fois qu'on a un gouvernement allié de la paix qui reconnaît déjà le conflit armé, les victimes, l'exil aussi, comme une forme de victimisation. Donc ça continue, mais les signataires, il y a un pourcentage énorme qui continue malgré ce non-respect des accords. Ils restent fermes en fait, ils veulent vraiment construire la paix. Et c'est assez complexe.
Oui, rappelons qu'il y a eu quand même plus de 13 000 ex-combattants et ex-combattantes qui ont laissé les armes. 90% d'entre eux effectuent aussi leur incorporation en zone urbaine pour des raisons de sécurité. Et face à ce contexte, comment s'est engagée en fait cette réincorporation à la vie civile, donc après tant d'années, de décennies même dans la lutte armée? Comment elle se fait d'un point de vue économique aussi, donc des personnes qui sont notamment précaires, qui viennent de zones rurales, qui ont été peut-être analphabètes dans le passé, et la lutte armée leur a aussi permis d'apprendre à lire, etc., à réellement avoir une formation politique. Alors actuelle, comment elle s'effectue cette réincorporation ?
Ce qui est à savoir, c'est que nous ne pouvons pas parler de quelque chose qui se passe de manière égale chez tous les cas en fait et situations. Mais il y a quelque chose un petit peu de commun, c'est que beaucoup de ces personnes aussi qui sont allées dans la lutte armée, beaucoup n'avaient pas de papier en fait, document d'identité. Ce qu'il a fallu faire aussi pour faire la réincorporation, il faut passer aussi par des choses comme ça, si simples, de revenir devant les entités compétentes pour créer justement ces papiers qui permettent après l'ouverture de droits pour ouvrir un compte bancaire, mais ils peuvent aussi peu à peu avoir le droit au vote aussi. Donc c'est plein de situations et de conditions ou choses on ne penserait pas du tout qui doivent se mettre en place et qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place. Donc pour moi c'est très difficile en fait de répondre à cette question parce qu'il y a des situations très diverses en fait et variées en fonction de où se trouvent ces signataires de paix. Donc nous on a eu de première main la situation de Alexa Rocci où elle a beaucoup galéré, mais qu'après a pu avoir toute une série de soutiens. Elle a rencontré des personnes qui l'ont vraiment soutenue et qui lui ont permis d'aller dans quelque chose d'assez positif. Récemment, on a rencontré une autre signataire de paix qui a pu intégrer la Mesa Nacional del Café. Donc c'est comme le bureau ou la table nationale du café. Et c'est quelque chose qui est plutôt pour les femmes. Et donc elle a créé son projet de réincorporation à travers le café. Et il y a tout un projet de réincorporation par le café très très important. Mais c'est des situations très différentes. Il y en a qui galèrent énormément et qui se retrouvent dans des situations d'extrême pauvreté aussi, comme beaucoup d'autres citoyens et citoyennes de la Colombie. Et c'est un peu à tout ça que le gouvernement doit faire aussi face.
Est-ce que peut-être vous vouliez rajouter quelque chose, Andrea Mora, très rapidement, parce qu'on va malheureusement être obligé de couper.
Oui, donc là, il y a des efforts pour faire les soutiens, par exemple, économiques, faire des emprunts, ou financer aussi des projets productifs pour les signataires de paix. Donc, je connais les cas, par exemple, d'une entreprise qui fabrique des sacs, des sacs à dos, des vêtements aussi. C'était des personnes qui faisaient ça au sein des FARC, les sacs à dos et les vêtements pour les guerrilleros. Donc, ils ont repris cette activité, mais du côté civil. Et je connais aussi un cas de réussite des signataires de paix qui sont en train de faire de la bière en Colombie et ils sont à Bogota. On avance petit à petit.
Merci beaucoup à Paula Martinez et Andrea Mora d'avoir été au micro de Semillas Latinas. Et n'hésitez pas à suivre Ciudadanías por la Paz sur Instagram et à vous engager pour la construction de la paix en Colombie.
Un grand merci à vous trois. On vous emmène désormais à Bogota avec Sylvie à la découverte d'une initiative concrète de cohabitation pacifiée dont on vient de parler justement.
Bienvenue à Bogota, dans le quartier de Teusaquillo, où se trouve un lieu où nous souhaitons vous inviter, la Casa de la Paz, plus connue sous le nom de la Trocha.
De l'extérieur, rien ne laisse deviner ce qui se trame ici. La maison arbore une façade simple, de style anglais, mais vivante. Elle est ornée de fresques colorées qui célèbrent la paix et l'espoir.
À l'intérieur, la Casa de la Paz se dévoile en un espace chaleureux et polyvalent. Dans une salle, vous trouverez un espace de discussion où se tiennent régulièrement des cercles de parole. C'est ici que des personnes ayant été affectées par le conflit se rencontrent pour partager leurs histoires et avancer ensemble vers la réconciliation. Un point de café invite les visiteurs et visiteuses à discuter, réfléchir et participer à cette dynamique collective. Et cela en dégustant une trocha, cette bière artisanale produite à l'initiative de 10 ex-combattants et ex-combattantes des FARC.
En réalité, la Casa de la Paz est née il y a 5 ans d'un rêve de construction de la paix par le bas, c'est-à-dire une approche ascendante, portée par plusieurs ex-combattants, ex-combattantes et signataires des accords de paix.
Lors de mon passage à la Casa de la Paz, j'ai pu rencontrer Doris Suárez, ex-guerrillera signataire de l'accord de paix, et échanger avec elle autour d'un café. Pour elle, cet espace culturel est une expérience réussie de réincorporation et réconciliation.
Se réconcilier, pour moi, c'est comme tisser de nouveaux liens de confiance qui s'étaient perdus, aussi bien de notre part envers la société civile que de la société civile envers nous. Donc ici, avec ces activités productives, avec tout ce qu'on fait, les espaces d'échange, les films, toutes les activités culturelles, les personnes sont en train de voir l'autre visage de la communauté fariane.
La Comunidad Fariana est cette communauté qui rassemble les ex-combattants et ex-combattantes des FARC, aujourd'hui réinsérés à la vie civile. Rassemblés à la Casa de la Paz, leur objectif est simple mais ambitieux. C'est de visibiliser les mémoires du conflit armé et de promouvoir une culture de la paix, tout en générant des garanties de travail dignes pour les anciens anciennes combattantes. La Maison de la Paix est un espace de dialogue, de formation et de soutien psychologique qui réunit des familles, des jeunes et avant tout des signataires des accords, des victimes et le reste de la population.
La programmation de la Trocha est variée. On y trouve des ateliers, des projections de films et des débats sur les processus de paix. Elle organise aussi des cérémonies en hommage aux victimes du conflit, comme pour garder en mémoire les vies marquées par des années de violence et d'injustice.
Alors, si vous êtes de passage à Bogota, venez découvrir la Trocha. C'est bien plus qu'un espace culturel. C'est un projet qui incarne la résilience et l'engagement envers l'édification de la paix de manière concrète et en dehors des dynamiques de pouvoir. Je vous propose de rester en Colombie. Partons vers le nord du pays avec Toto La Momposina, interprète de Yo Me Llamo Cumbia.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor.
la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz.
C'était Toto la Mampocina sur Radio Campus Paris. À présent, une chronique cinéma. Bonsoir Pauline, tu nous fais découvrir une époque qui aura marqué l'histoire du cinéma colombien et permis à une génération d'auteurs et de réalisateurs de trouver leur place sur la scène mondiale du cinéma.
Et oui, je vous propose de partir à la rencontre du cinéma colombien, mais surtout d'une époque marquante de celui-ci, la fin du XXe siècle. Au début des années 80, en Colombie, une enquête est réalisée pour un journal télévisé. Seuls quelques rares passants qui connaissent le cinéma colombien déclarent alors que c'est le pire au monde. Après plus de 100 ans d'histoire, le cinéma colombien traverse une crise majeure. Il est seul, sans public, peu de réalisateurs et pas de moyens suffisants en termes de technique ou de financement. Pourtant, 30 ans plus tard, en 2016, à Cannes, le prix du meilleur film en langue étrangère est attribué à El Abrazo del Serpiente, L'étreinte du serpent, de Ciro Guerra. Un film majestueux, teinté d'onirisme, où le noir et blanc nous évoque le travail du photographe Salgado sur les paysages amazoniens.
Mais à quoi doit-on cette renaissance du cinéma colombien ?
En Colombie, il existe de nombreux talents, mais cela n'a jamais été suffisant. Je vous propose de remonter le fil pour comprendre cette histoire du cinéma colombien. Nous sommes en 1990, au Festival de Cannes. Pour la toute première fois, un film colombien est présenté en sélection officielle. Le titre ? Rodrigo D., No Future. Le réalisateur Victor Gaviria nous raconte l'histoire d'un garçon de Medellín qui, après avoir tragiquement perdu sa mère, éprouve un désintérêt total pour la vie, ses seuls intérêts étant le punk et avoir une batterie. Véritable coup de poing ou de punk, le film secoue par son réalisme brut, fracassant. Avec une approche très documentaire, proche de celui des néo-réalistes italiens comme De Sica ou Rossellini, qui avaient filmé l'Italie d'après-guerre. Victor Gaviria filme l'errance, les gens des quartiers miséreux, avec des acteurs amateurs. Le monde découvre alors une nouvelle image de la Colombie, l'image de la réalité, la pauvreté, le manque d'horizon et la violence.
Mais alors, pourquoi cela est-il nouveau pour l'époque en Colombie ?
Revenons au début des années 80. À l'époque, c'est l'âge d'or de la télévision colombienne. Un nombre incalculable de séries émergent, comme Camino Cerrado ou encore Los Victorinos, sorti en 1990. Le petit écran est alors au cœur des foyers. Dans l'espace privé, il représentait un espace de liberté qui permettait de découvrir le pays depuis son canapé. Bien que privé, la télévision employait de nombreux cinéastes talentueux comme Jorge Alitriana et Pepe Sanchez et a permis le financement d'œuvres fondamentales pour le patrimoine colombien comme la série documentaire Yurupari de Gloria Triana.
Donc l'État a financé la production et la création de contenu audiovisuel pour la télévision. Mais alors, le cinéma n'avait-il pas la même possibilité ?
Disons qu'en 1988 et aujourd'hui, trois changements essentiels sont survenus.
L'apparition des technologies qui ont démocratisé l'accès à l'expression audiovisuelle, la création de formations au métier du cinéma à partir de 88. Avant cela, les cinéastes colombiens étudiaient le cinéma dans d'autres pays, notamment à Cuba ou dans les pays de l'Est, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Enfin, la mise en place du soutien de l'État pour le développement d'une cinématographie propre et stable, comme écrit dans les documents de la direction du cinéma au ministère de la Culture, il faut dire que l'absence de soutien de l'État pendant longtemps fut l'une des causes de solitude du cinéma colombien. Dans les années 80, les productions étaient plutôt basées sur des œuvres littéraires ou de fantasy, qui n'avaient rien à voir avec la réalité crue que traversait le pays. La réalité s'imposa et le cinéma donna la possibilité de dire des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Mettre en lumière les problèmes de la société, tel fut le mot d'ordre et de volonté d'une génération qui émergea sur cette fin du XXe siècle. Victor Gaviria, Francesco Rossi avec Chronique d'une mort annoncée, ou encore Mario Mitrotti avec Mujer de Fuego, qui n'hésite pas à parler de la mafia colombienne. Tous avaient cette volonté de changement, de renouveau, en s'appuyant sur la réalité de la société. Pour terminer sur un film plus récent, je vous invite à regarder le film poignant Matar a Jesús, sorti en 2018, de la réalisatrice colombienne Laura Mora Ortega, un film autobiographique sous tension qui continue de faire vivre ce courant. Des films qui parlent de la vie, tout simplement, dans ce qu'elle a de plus vrai.
Et comme d'habitude, en fin d'émission, on va discuter avec Anaëlle des cultures anciennes pour dévoiler à nos auditeurs et auditrices la riche histoire du continent américain avant la colonisation. Il est évident que tout le monde ne connaît pas les arts autochtones des Amériques, ni les particularités des peuples et du territoire de l'actuelle Colombie. Par contre, il existe une légende liée à cette région dont la plupart d'entre nous ont entendu parler et sans forcément en connaître les tenants et les aboutissants. Je veux parler du mythe de l'Eldorado. Ce mythe a obsédé les colonisateurs européens, suscité des vocations chez les chasseurs de trésors et influencé de nombreuses œuvres de fiction, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Anaëlle ?
Avec grand plaisir. L'Eldorado, c'est une contrée mythique qui était supposée regorger d'or et de pierres précieuses d'après plusieurs récits de voyages de conquistadors du XVIe siècle et au-delà, dont la cupidité est bien connue. Cette cité imaginaire aux richesses infinies s'inscrivait dans le cadre plus général du mythe des cités d'or remontant au Moyen-Âge, mythe qui s'est particulièrement développé après l'arrivée des Européens sur le continent américain en 1492. Au cours des siècles qui suivirent, se sont succédés un certain nombre d'expéditions d'explorateurs espagnols, allemands ou anglais, aussi avides qu'aventureux, partis en vain dans tout l'Empire espagnol à la recherche de l'Eldorado. Le mythe ne s'est vraiment éteint qu'au XIXe siècle. Or, ce lieu, qui relève avant tout du fantasme, aurait quand même peut-être un lien ténu avec le réel. Parmi les sources d'inspiration possibles, se trouvent souvent évoquées les traditions d'un peuple autochtone de l'actuelle Colombie, les Muiscas, aussi appelés Chibcha. Les Muiscas ont vécu dans la zone centrale du pays à partir d'environ 900 de notre ère et jusqu'à la conquête de la région dans les années 1530. Cette société très structurée, croyant en de nombreuses divinités, est considérée aussi comme sacrée. Plusieurs sites naturels, tels que des montagnes, des forêts et des rivières, entre autres, autant d'espaces et d'éléments naturels vénérés parce qu'on considérait que des dieux y vivaient et qu'il s'agissait d'endroits stratégiques pour la préservation de l'équilibre de la nature.
Ok, mais qu'est-ce qui, dans la culture et les coutumes des Muiscas, peut avoir attisé tant de curiosité et clairement de soif de conquête et d'appropriation ?
Eh bien, les Muiscas étaient politiquement organisés sous la forme de deux confédérations de caciques, c'est-à-dire qu'il y avait des chefs représentant des groupes à un échelon territorial réduit, mais que ces différentes chefferies étaient fédérées, alliées, sous la houlette de deux souverains régnant sur chacune des deux confédérations principales des Muiscas. Dans ce contexte, c'est le faste avec lequel les monarques accédaient au pouvoir et toute la somptuosité de la cérémonie d'intronisation qui pourrait avoir inspiré la légende d'Eldorado, plutôt qu'une ville qui n'a jamais existé. D'ailleurs, l'expression même d'Eldorado, littéralement « le doré », aurait pu faire référence à ce monarque, le syntagme pouvant dès lors se traduire « l'homme doré ». Du coup, un petit point histoire de l'art s'impose. Comme d'autres sociétés anciennes ayant vécu dans ce qui correspond actuellement à la Colombie, je pense au Quimbaya et au Tayrona notamment, les Muisca étaient d'excellents métallurgistes. Pourtant, leur territoire ne possédait pas de gisements d'or en abondance. Les Muisca s'approvisionnaient en or grâce aux échanges commerciaux très intenses qu'ils entretenaient avec les sociétés voisines. Ils troquaient leurs émeraudes, leurs tissus de coton et leurs sels contre le métal doré, tant apprécié, non pas pour sa valeur monétaire, mais pour ses qualités visuelles et comme symbole du soleil, entité naturelle sacrée et même carrément divinisée. Les Muisca fabriquaient des tunjos, petites figurines de forme humaine ou animale, et ce, dans des quantités telles qu'aujourd'hui, c'est pas moins de 35 000 objets en or et en tumbaga, un alliage de métaux, qui sont conservés au musée de l'or de la ville de Bogota. Les objets en métal, produits en grand nombre, avaient plusieurs fonctions, telles que la manifestation du pouvoir à travers des bijoux et des accessoires réservés aux élites, mais aussi l'accompagnement des morts dans l'au-delà, la décoration des temples et des sanctuaires, et bien sûr l'offrande rituelle aux divinités, en signe de piété, qui consistait à déposer ces objets dans les lacs et les rivières sacrées, notamment au cours de la cérémonie d'investiture d'un nouveau souverain. Le chef était alors emmené sur un radeau au centre du lac sacré de Guatavita et enduit de poussière d'or, de manière à briller de mille feux avec la lumière du soleil au lever du jour, avant de plonger dans le lac. Dans une sorte de renaissance symbolique, il émergeait ensuite de l'eau en tant que souverain né du divin soleil doré. Pendant ce temps, l'assistance jetait de grandes quantités d'offrandes en or dans le lac Guatavita. La légende d'El Dorado découle probablement des récits et des élucubrations nées de ce rituel bien précis, même s'il est impossible d'en retracer l'origine avec certitude. En tout cas, avec ces éléments de contexte, on comprend mieux que l'abondance de l'or et des pierres précieuses relatées par les premiers Européens au contact des peuples autochtones de la région ait provoqué une telle convoitise auprès de nombreux aventuriers.
Et du coup, est-ce que cette convoitise s'est arrêtée avec le déclin du mythe de l'Eldorado ?
Absolument pas. Le pillage des sites, et parfois l'expropriation et le vol de biens culturels au sein des musées et des collections privées, se poursuivent en Colombie dans des dimensions très problématiques. Selon le journal El País América, entre 2001 et 2010, 7812 objets précolombiens ont disparu du pays. On appelle communément « huaqueros », ces « pilleurs » qui fouillent clandestinement les sites anciens, et notamment les tombes, à la recherche d'objets de valeur dans toute l'Amérique du Sud. Ces appropriations illégales, destinées à la vente, privent la nation tout entière, et en particulier les descendants et descendantes des communautés autochtones, de leur patrimoine culturel, artistique, religieux, historique. Les huaqueros privent aussi les chercheurs et chercheuses d'informations essentielles pour connaître les modes de vie de ces civilisations. Les dommages irréversibles laissent de grandes zones d'ombre qui impacte la recherche et la compréhension de l'histoire. Et ce trafic est parfois lié à d'autres types de crimes organisés, tels que le trafic de drogue ou le trafic d'armes, sans parler du blanchiment d'argent qui s'y adosse bien souvent. Le tout, mondialisation oblige, à une échelle internationale. Les autorités colombiennes ont lancé en 2002 une campagne nationale pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Or, le cadre légal national ne suffit pas à combattre ces réseaux de trafiquants. Il existe plusieurs instruments internationaux. Les principales étapes vers la reconnaissance et vers l'affirmation du fait qu'une clarification, une vigilance et une transparence quant à la traçabilité des objets sont nécessaires, ce sont deux conventions internationales fondamentales dans la lutte contre le trafic illicite, une convention de l'UNESCO de 1970 et une convention d'UNIDROIT, l'Institut international pour l'unification du droit privé, adoptée en 1995. Les pays qui ont ratifié la Convention de 70 s'engagent à empêcher les musées situés sur leur territoire d'acquérir des biens culturels illégalement exportés et de saisir et restituer, à la demande officielle du pays d'origine, tout bien culturel volé et importé. En mars 2011, le Conseil international des musées lançait sa liste rouge des biens culturels colombiens en péril, présentant des catégories d'objets qui sont les plus exposés au trafic illicite. Cet outil est distribué aux autorités policières et douanières dans le monde entier, mais aussi aux professionnels des musées, aux commissaires-priseurs, aux marchands et marchandes d'art, et accessible évidemment aux collectionneurs et aux collectionneuses. Du coup, concrètement, pour garantir l'origine des objets, il faut un certificat d'expertise et pour garantir le caractère légal de leur provenance, il faut un titre de propriété valide. Du fait de l'intraçabilité de beaucoup d'objets, les musées n'achètent plus et les ventes dans ce secteur s'amenuisent au point qu'il y a quasiment plus de marchands et marchandes d'art précolombiens. Tout le monde est extrêmement frileux et à juste titre, car plusieurs ventes ont été interrompues avec perte et fracas par des représentants des pays d'origine de ces objets, réclamant la restitution intégrale des lots mis sur le marché. Ces lots étant automatiquement saisis par les douanes ou par l'OCBD, car les autorités françaises prennent extrêmement au sérieux ces demandes. De plus, comme j'ai pu personnellement le constater en y participant directement, de nombreux musées conservant un patrimoine extra-occidental redoublent d'efforts pour faire avancer les recherches sur les historiques des objets conservés. Il s'agit pour les musées d'être à même de répondre précisément à d'éventuelles demandes de restitution. D'ailleurs, il y a exactement 2 ans, en novembre 2022, Gustavo Petro, le président colombien, était venu en France pour participer au Forum sur la paix et a utilisé l'avion présidentiel pour rapatrier des centaines d'objets archéologiques qui se trouvaient à Paris, mais aussi à Berne ou à La Haye.
Nous voici déjà à la fin de cet épisode spécial consacré à la Colombie et à sa quête de paix. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Si vous en voulez encore, ne manquez pas l'exposition de l'artiste colombienne Olga de Amaral à la Fondation Cartier, qui explore les limites du médium textile pour créer des œuvres monumentales. Et vous avez jusqu'au 16 mars 2025 pour vous y rendre. Cette émission a été rendue possible grâce à toute l'équipe de Semillas Latinas, que vous avez écouté avec passion, je l'espère, pendant cette dernière heure. Un immense merci à Michael Adarf pour la réalisation, ainsi qu'à nos invités Paola Martinez et Andrea Mora pour leur précieux éclairage. Et bien sûr, un grand merci à vous, nos auditeurs RIS, pour votre fidélité. Pour prolonger l'expérience, suivez-nous sur Instagram @semillaslatinas. Vous y trouverez nos chroniques, nos recommandations culturelles ainsi que des points d'information exclusifs. On se retrouve dans 1 mois pour un nouvel épisode, cette fois dédié à l'Argentine où nous ferons le point près d'un an après l'élection de l'inénarrable Javier Milei. Il est presque 20h59. Merci d'avoir partagé votre samedi soir avec nous. Et maintenant, place à la fête. A rumbear!